On va tourner dans Philippiens chapitre 3, versets 15 à 21. Philippiens chapitre 3, versets 15 à 21. Quelle est votre marche? Pour ceux d'entre nous qui avons accepté Jésus-Christ, quelle est notre marche? Philippiens chapitre 3, versets 15 à 21. Page 896, pour ceux qui ont la même pagination. Ça dit, nous tous donc qui sommes parfaits, nous ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, la Bible, Seigneur Dieu. C'est la vérité. Seigneur, aide-moi de bien proclamer droitement la vérité, Seigneur Dieu. Et que chacun puisse vérifier l'exactitude, Seigneur, de ce que je peux dire avec ta parole. Et suivre ta parole s'il y a quelconque différence, Seigneur, que les gens ne me suivent pas, mais qu'ils puissent suivre ce qui est écrit dans la Bible. Et que moi, je puisse être fidèle à donner fidèlement, droitement, le sens de ta parole. On te prie. Touche les cœurs selon le besoin de chacun, on te prie, au nom de Jésus. Amen. La marche, c'est la manière de vivre. Il dit, nous tous donc qui sommes parfaits. C'est pas la Nous, en français, on a deux mots, parfait, complet. En grec, c'était le même mot. Et ici, il ne parle pas au sens parfait. Comment est-ce qu'on sait qu'il ne parle pas au sens parfait total? Qu'est-ce qu'il venait de dire dans les versets qui précèdent, comme on a vu la semaine dernière? je ne suis pas parvenu. Je n'ai pas fini d'apprendre. Il me reste encore pas mal à avancer. J'ai oublié ce qui est en arrière. Donc, on sait qu'il ne parle pas de la perfection totale, mais la maturité. Donc, il dit au sens chrétien, c'est un peu spirituellement comme un enfant, bébé, enfant, adolescent, son corps n'est pas encore arrivé. Là, vers 18-20 ans, on finit la croissance, on a ensuite donc la vie à vivre en tant qu'adulte. C'est un peu comme ça au sens qu'il donne ici. Il dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Donc, après, à partir de la maturité, donc, on sait qu'on doit oublier ce qui est en arrière, se porter vers l'avant, etc. On a encore des choses à apprendre. Et donc, c'est peut-être pas l'aspect d'être un bébé spirituel, parce qu'on a besoin du lait, des choses très simples. C'est dans cette optique-là qu'il dit, marchons ensemble d'un même pas, au point où on est rendu, avançons dans la maturité. Et si on n'est pas encore mature, bougeons du lait, et grandissons, etc. Là, il parle ensuite de la marche à suivre, et il se donne en modèle. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères. Il dit ailleurs dans la Bible que lui-même était l'imitateur de Dieu. Puis, donc c'est dans ce sens-là que les gens devaient l'imiter lui. Pas qu'il était la fin des choses, comme on vient de dire, il vient de le dire lui-même. Mais au sens que lui, il est sur la bonne voie. Il devient de plus en plus imitateur de Dieu. Il veut imiter Dieu de plus en plus. Il veut ressembler à Christ de plus en plus. Alors il dit, suivez-moi, imitez-moi. Et on se doit tous, si on a accepté Christ comme sauveur, d'être un peu dans ce sens-là, la même chose. Chercher à imiter Christ et encourager les gens, dire, hey, faites comme moi, imitons Christ ensemble. Donc, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul, ainsi que Christ, il l'a appris de Christ lui-même, il mène par le devant. Il ne dit pas « allez par là-bas ». Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, il dit « faites comme je fais ». Vous remarquerez un petit détail qui est donné dans Actes chapitre 1, seulement un beau petit verset. J'ai dit, Paul a appris de Jésus-Christ ce modèle-là. Vous remarquez dans Actes chapitre 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il faisait, avant d'enseigner, il faisait et il enseignait. Donc, Christ, lui aussi, bien sûr, ne mène pas par aller par là, suivez-moi. Lui-même est allé jusqu'à la croix. Lui-même a renoncé à lui-même pour aller à la croix. Lui-même a dit la vérité par le mensonge. Lui-même avait un amour par lequel il agissait dans tout ce qu'il faisait. Lui-même, donc, il veut qu'on le suive. Et par l'apôtre Paul, c'est la même chose. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ensuite, il s'adresse par rapport à... Ce n'est pas tous qui sont des modèles. Ce n'est pas tous ceux qui professent aussi l'Évangile qui sont des modèles. Il dit ici, car il y en a qui sont ennemis, qui se conduisent en ennemis de la croix. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en murmurant. L'apôtre Paul ne se réjouissait pas de ceux qui contredisaient l'Évangile, de ceux qui vivaient d'une manière à être ennemis de l'Évangile de Christ. Comment est-ce qu'on peut être ennemi de la croix de Christ? L'ennemi de la croix de Christ, ce ne sont pas seulement ceux qui persécutent ceux qui sont chrétiens. Certainement, ils sont ennemis de la croix de Christ. Mais non, dans le contexte, ce n'est pas vraiment à eux qu'on réfère, parce qu'il parle de prenez en modèle, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. En contraste, il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il parle de ceux qui professaient Dieu, mais qui se conduisaient dans leur manière de vivre en ennemis de la croix de Christ. Comment est-ce qu'on est ennemi et qu'on marche en tant qu'ennemi de la croix de Christ? Ceux qui vivent à croire que nos péchés ne méritent pas réellement la mort, premièrement. Et il y a beaucoup, une bonne partie du christianisme qui fait que, oui, on croit que Christ est mort. Mais on est ennemi de la croix de Christ au sens réel, au sens qu'on ne croit pas que Christ a tout accompli. On ne croit pas qu'on est de si mauvaises personnes. On ne croit pas qu'on est incapable de vraiment mériter le ciel. On ne croit pas qu'on avait besoin que quelqu'un le fasse tout au complet pour nous et que ça se fasse sur la croix du calvaire. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Qu'on dise que Christ est seulement mort pour le péché originel. Ensuite, c'est à nous de se prendre en main. C'est à nous, s'il faut, à la fin de notre vie, aller au purgatoire pour finir de purger nos péchés. Christ, oui, il est mort pour nous. Il est mort pour le péché originel, Adam et Ève. C'est comme si, à cause d'Adam et Ève, c'est certain qu'on ne peut pas rentrer au ciel. Mais Jésus est mort pour ça, pour maintenant nous donner une chance. Une chance de nous prendre en main, une chance de mériter le ciel. Et si on n'a pas fait assez durant la vie pour pouvoir rentrer et mériter le ciel, on va finir de le purger nos fautes dans le purgatoire pour pouvoir rentrer. Ça, c'est une manière d'être ennemi de la croix de Christ. C'est de défaire le sens vraiment pour lequel Christ est mort. Mais ce n'est pas nécessaire de croire que Jésus est juste mort pour le péché originel et que c'est par le purgatoire qu'on va finir de purger nos péchés pour être ennemi de la croix de Christ. On peut être ennemi de la croix de Christ en disant que oui, on croit que Christ est mort pour nos péchés. Mais maintenant, il ne faut pas abandonner. Si nous on abandonne, c'est nous qui rejetons. Mais en fin de compte, ça revient aux mêmes choses. Ça revient que ça dépend de nous encore. Et combien d'autres églises qui ne croient pas que Christ soit mort pour juste pour le péché originel, qui ne croient pas dans le purgatoire? Et croire, voilà, attention, oui, Christ est mort, mais ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas perdre notre salut. Si on perd notre salut, c'est parce que c'est nous qui avons pas été conséquent, tout ça. Donc ça dépend en fin de compte sur nous. Ça, c'est notre manière d'être ennemi de la croix de Christ. Parce qu'au fin de compte, donc, Christ n'a pas tout accompli pour celui donc, qui reconnaît qu'il a tout accompli. Non. C'est des manières d'être ennemi de la croix de Christ. La caractéristique qui accompagne être ennemi de la croix de Christ, il le dit. Et il dit non seulement leur fin sera la perdition, mais il les décrit maintenant. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça, c'est une autre manière aussi de rendre la croix de Christ belle, c'est qu'en fin de compte, il y a ce monde pour lequel vivre. On doit profiter de ce monde. Ennemi de la croix de Christ, c'est aussi de dire ou penser qu'il vaut mieux profiter de notre vivant, de la vie qu'on aime, que de renoncer à soi et de se convertir à Christ. Ça, c'est d'être ennemi de Christ d'une façon ouverte, ou disons directe. Mais il y a aussi d'une manière indirecte. Il y en a qui disent, oui, avoir la croix de Christ, ça veut dire que maintenant on est sous la grâce. Ils vont tordre la grâce en dérèglement, on est sous la grâce, le légalisme. Ah là, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, 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 maintenant on est libre. On est libre, Christ est mort pour nous, maintenant on est libre. Et c'est notre manière pour commencer à vivre pour soi-même. Et Paul, il le dit en termes très concrets, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ce monde qui compte. La bénédiction de Dieu est dans ce monde, c'est la bénédiction de Dieu dans ce monde qui compte. C'est une autre manière de dire, d'une façon peut-être un peu plus pieuse, Paul enlève toute la piété de la chose, ils ont pour Dieu leur ventre, leur temple, carrefour. Carrefour vient d'augmenter, d'agrandir. Vous rentrez dans Carrefour depuis qu'ils l'ont ouvert la nouvelle entrée, là. C'est beau. Et les gens rentrent dans le temple, acheter leur sacrifice à leur ventre. Et on rit, mais j'en ai connu que c'était très, très direct. Ils m'ont dit non. Je ne peux pas venir à ta réunion. Pourquoi ? C'est l'heure du dîner. Votre réunion est à 18h. C'est l'heure que je mange. Je ne peux pas venir à votre réunion. Je mange à cette heure-là. Je me suis fait dire ça parfois très directement. Pour eux, ils ne pouvaient pas manquer leur dîner. C'est leur messe. C'est leur réunion. C'est leur culte d'adoration. C'est le temps où ils servent leur Dieu, leur ventre. Mais on n'est pas besoin d'être si ouvert ou direct dans notre... On peut simplement être dicté par nous. Notre vie est dictée par ce qui compte le plus, c'est nos appétits. Le Dieu du ventre est mentionné ici, mais c'est vraiment être esclave de ses appétits. Que ce soit la nourriture, que ce soit toute autre forme d'appétit du corps. C'est l'appétit du corps qui compte. Et on voit, si je veux faire telle chose, si mon corps veut faire telle chose, ben, je vais me gratter. Est-ce que Dieu ne nous a pas donné le besoin de manger? Oui, Matthieu chapitre 4, 4. Certainement, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire qu'il a besoin du pain pour manger. Dieu nous a créé comme ça. Dieu nous a créé avec le besoin de respirer, ça c'est automatique. Il nous a fait un corps où on n'a même pas besoin de réfléchir. Pour respirer, c'est automatique. On respire, même si on n'y pense pas. Et Dieu nous a fait aussi avec le besoin de manger, certainement. Est-ce que ça veut dire que dès qu'on mange, on a comme Dieu le ventre? Non. Jésus-Christ avait besoin de manger pour ne pas mourir de faim. Mais son appétit, c'était quand c'était le temps, quand c'était bien. Il y avait un temps pour tout, il y avait un temps même de jeûner. Et Jésus-Christ, au début de son ministère, il a jeûné même 40 jours. L'homme peut survivre une quarantaine de jours sans manger. Là, ça devient critique. Quand on jeûne longtemps, quelques jours de suite, une semaine ou deux, C'est dans les premiers jours qu'on a faim, parce que le corps est habitué à manger. Mais après que le corps, on lui a fait comprendre que là, on ne va pas manger, on va continuer à jeûner pendant 2-3 jours, le corps arrête d'avoir faim. Ah, mais c'est certain qu'on ne peut pas jeûner comme ça à long terme et continuer un rythme de vie normal, un travail normal et dépenser beaucoup d'énergie. Pour jeûner comme ça, Jésus était dans le désert, il était au repos, il ne faisait pas grand-chose, etc. Il n'avait plus faim. Mais ça dit, après 40 jours, il avait faim. Là, c'est le corps qui dit, j'ai mangé les réserves qu'il y avait. Là, si je ne mange pas, c'est critique que je vais mourir, là. Le corps, il envoie ce signal d'une nouvelle sensation de faim, après qu'un autre a été habitué à ne plus manger. Là, le corps qui envoie le signal, là, c'est un signal très critique. Donne-moi à manger, autrement, là, il ne reste plus de réserve et tu vas mourir. Et là encore, ce n'était pas la manière, ce n'était pas le temps de manger n'importe comment, n'importe quand, et Satan l'a tenté pour qu'il change les roches en pierre. Et Jésus a dit non. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et après avoir résisté à la tentation, plusieurs tentations, ensuite il a mangé. Dieu n'a pas permis que ça aille à Jésus, il ne voulait pas non plus que Jésus meure de faim. Le but, c'est qu'il a été mis sur la croix, etc. Mais tout ça pour dire, Jésus avait une discipline sur ses appétits, il n'était pas esclave de ses appétits. Jésus s'attend que quand on se convertit, il y a des moments qu'on va jeûner. Il dit « lorsque vous jeûnez ». Il ne le commande jamais, mais il présume qu'il y aura des temps spéciaux, des moments spéciaux, où on va prendre un temps spécial de prière, etc. Il dit « lorsque vous jeûnez ». Le chrétien, il n'est pas esclave de son ventre. Le chrétien, il va grandir dans cette discipline, non seulement sur ses appétits au niveau de la nourriture, mais toute forme d'appétit du corps. Il ne va pas être esclave des appétits de son corps. Mais quand on a comme Dieu le ventre, quand on est esclave de ses appétits, ça se peut que ce soit des appétits qu'on a créés, comme pour l'alcool, là, à un moment donné, ça devient une dépendance. Ou aux drogues, on crée un appétit qui n'est pas naturel. Mais on est esclave de ces choses-là. Mais Jésus est venu pour nous rendre libres de ces esclavages-là et aussi disciplinés par rapport à nos convoitise et vis-à-vis de nos appétits naturels. Alors, Paul, il décrit non seulement l'être esclave de ses appétits, mais il dit qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. Que ce soit la poursuite de l'argent, que ce soit vivre d'une façon plus aisée, plus confortable, que ce soit la poursuite des amitiés, des relations personnelles qu'on a dans nos familles ou nos amis, que ce soit la poursuite de ce qu'on trouve plaisant ici-bas, nos passe-temps favoris, ce qu'on aime faire. Cette vie qu'on voit, qu'on sent, qu'on entend, qu'on touche, cette vie, il ne pense qu'aux choses de la terre. Être ennemi de la croix, c'est vivre comme ça, c'est dire que cette terre est plus importante que l'éternité. Et c'est là que Dieu nous ramène et veut nous ramener à dire, hey, réveillez-vous. Ce monde, c'est comme un bateau qui coule. C'est pas le temps de peindre un bateau qui coule. C'est pas le temps de s'y faire confortable sur un bateau qui coule. Un bateau qui est certain de couler avant de se rendre sur la côte, c'est pas le temps de commencer à être installé, bien comme il faut sur un bateau comme ça. C'est le temps de chercher le gilet de sauvetage. C'est le temps de chercher les bateaux de secours, là. C'est le temps d'envoyer les cris de détresse. C'est le temps de faire ce qu'il faut pour... Et Dieu, il voit tellement de gens sur les bateaux qui coulent de ce monde se faire bien comme il faut. Et Dieu dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Il dit, notre cité à nous est dans les cieux. Cette espérance-là, c'est ce qui permet, par exemple, à deux femmes hollandaises qui ont caché les juifs durant la Deuxième Guerre mondiale et qui se sont fait attraper à cacher les juifs, être envoyées dans un camp de concentration et toute la misère qu'ils ont vécue, toutes les tortures, beaucoup des femmes qui étaient avec elles, mortes de faim, mortes de fatigue. Et c'est ce qui leur a permis, durant ces soirs-là, où est-ce qu'ils étaient ensemble dans leur baraque, plein de poux, à répondre aux autres femmes qui disent « Mais comment vous pouvez croire en un Dieu si bon qui vous envoie là, qui a permis que votre père meure là, en prison ?» Et notre cité à nous est dans les cieux. Dieu, il sait qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dans ce monde, et beaucoup de mauvaises choses, c'est peut dire, dans ce temps-là où c'était incroyable, le nombre de personnes qui étaient tuées, la cruauté dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination, ces deux femmes-là, vous avez une réponse. C'est pas notre monde ici-bas. Cette haine que vous êtes témoin, c'est pas la nôtre. Nous, on reconnaît qu'on a un Dieu d'amour. Et oui, notre Dieu, il nous donne grâce à travers ce temps si horrible. On ne comprend pas tout pourquoi, mais on sait qu'il n'a pas changé. Et on sait que son plan, c'est pas qu'on reste ici à jamais. Il nous prépare une belle place pour l'éternité. C'est cet espoir-là, cette vision-là qui permet qu'on n'est pas découragé quand notre monde physique dégringole par une maladie, par une persécution, par perte d'emploi, etc. On n'en est pas, on compère un être cher, on sait que ce n'est pas ce monde qui compte. Notre cité à nous est dans les cieux. Alors, être ennemi de la croix, c'est de vivre comme ce monde est le plus important. C'est de vivre comme si nos péchés ne sont pas si graves. C'est de vivre comme si Jésus-Christ n'avait pas tout payé. C'est de vivre sans avoir vraiment accepté. C'est peut-être de vivre en professant de croire, sans vraiment croire. Croire sans croire. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, c'est croire sans croire. Ils disent que Jésus est leur Seigneur et Sauveur, mais ils n'en connaissent pas le fond. Et c'est à de cela que Paul il dit, faites attention, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Dieu avertit de la futilité de penser que ce monde est ce qui compte. Dieu, il cherche à nous avertir que ça vaut la peine de renoncer au plaisir de ce monde et vraiment à ce qu'on vit, vivre soi-même dans ce monde, à tout ce qui nous plaît personnellement, à ce qu'on veut continuer à vivre. Et on sait qu'au fond de nous, que les choses pour lesquelles on vit dans ce monde, elles ne sont pas pures, elles ne sont pas saintes. Dieu nous abandonne. Dieu ne demande pas d'abandonner ce qui est saint, pur et bon. Dieu nous demande d'abandonner nos péchés, nos convoitises, notre orgueil. Eh bien, regardez dans Proverbes chapitre 1. Dieu, il avertit de la perdition. Leur fin sera souvent la perdition, Mais regardez, Dieu veut nous en avertir pour nous amener à nous réveiller, pour dire qu'est-ce qu'on fait là? Vivre pour ce monde. Vivre en ennemi de la croix, parce qu'on ne l'a pas accepté pleinement. Ce que la croix veut faire, de nous sauver parfaitement. Proverbes chapitre 1, verset 20, page 478, il dit « La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ?» Dieu ne nous insulte pas pour nous insulter, mais Dieu veut nous alerter sur notre tendance naturelle et par là où est-ce qu'on commence. On commence tous avec un cœur pécheur, avec un cœur tortueux et un cœur qui vit pour ce monde. Plein de poison, plein de bonnes choses, mais ça nous rend esclaves, puis on aime ça. Et Dieu veut dire, hey, vous êtes dans un bateau qui coule, vous êtes dans une chose qui va... Moi, je vous offre la vie éternelle, puis vous êtes là en train de vous gaver de ce que vous pouvez avoir dans ce monde. Alors, il dit, mais c'est stupide. Alors, oui, par amour, il nous dit, hey, réveillez-vous là, c'est stupide. C'est stupide. Et moi, j'ai dû accepter de me voir comme ça aussi, avant d'accepter Christ. J'ai dû dire, ouais, ok, Dieu, t'as raison. C'est stupide. Et pour l'instant, je préfère ma stupidité. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Il dit, jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité ? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie ? Et les insensés haïront-ils la science ? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, là il avertit, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science. Si vous ne cherchez pas encore pleinement l'Éternel, moi je vous dis au nom de ce qui est écrit, au nom de Dieu, un jour vous allez chercher Dieu, et un jour vous allez le chercher de tout votre cœur. Vous allez le chercher éternellement, mais vous ne le trouverez jamais, ce sera trop tard. Un jour, comme il dit, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les parle. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Dieu, il, dans sa tendresse, comme on l'a dit, il nous regarde et il veut nous sauver ici-bas. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour d'autres. Il veut le faire pour chacun pour qui il l'a pas encore fait. Mais c'est comme si un bateau arrive à côté de notre bateau qui coule, puis il dit, là, c'est le temps, votre bateau coule, c'est le temps de débarquer, c'est le temps d'embarquer sur la nôtre. Non, la nôtre n'est peut-être pas aussi confortable que la vôtre. Non, la nôtre n'est peut-être pas aussi belle. Mais elle est certaine, puis elle va au bon port, embarquer. Non, je pense pas que notre bateau coule. Non, je vais rester ici, là, c'est une prévision, c'est bon, je peux faire ce que je veux. Je peux faire avoir ma prévision que je veux. Non, c'est bon. Vous êtes certain, il faut qu'on parte parce qu'on va être embarqué avec vous quand votre bateau coule. On va être embarqué. C'est le temps qu'on doit partir. Venez. Non. Venez. Non. Ah, c'est trop tard, là, il faut qu'on parte. Et là, une fois que le bateau commence à couler, là, les gens disent « Ah, revenez, c'est quoi ?» Là, ils commencent à goûter à ce qu'ils ont voulu, mais ils n'ont pas voulu croire. Ils préféraient croire à ce qu'ils se sont dit. Et Dieu, il avertit. Et il avertit longtemps. Mais il avertit qu'un jour, ça sera trop tard. Et dans Philippiens 3, donc, c'est pas flatteur de penser qu'on est l'ennemi de la croix. C'est pas flatteur de penser qu'on ne pense qu'aux choses de la terre. C'est pas flatteur. Mais Dieu nous dit, hey, on a besoin de réaliser notre état d'abord avant de pouvoir être sauvé. Avant de devenir réconcilié avec Dieu et d'être ami de la croix. On doit réaliser, hey, on est ennemi de la croix. On est ennemi de Jésus-Christ. On est ennemi de Dieu. On est insensé. Pour l'instant, on a préféré la poubelle à son cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Dieu dit, hey, peut-être t'as pensé ça pour l'instant longtemps, mais c'est pas trop tard encore. Vous respirez, c'est pas encore trop tard. Venez, il dit, tant qu'on peut dire aujourd'hui. Alors si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, Dieu vous avertit de la perdition et la conséquence d'être ennemi de la croix de Christ. Pour même ceux qui, beaucoup de monde dans ce monde, qui professent croire, mais qui en sont en réalité ennemis de la croix de Christ. Pour nous qui marchons avec le Seigneur, on doit faire attention à qui on se construit. De suivre ceux qui suivent le bon modèle et qui ne vivent pas comme les ennemis de Christ, comme ceux qui ont tordu leur ventre et qui ont les pensées juste sur cette terre. Marchons derrière ceux qui ont les bonnes priorités et invitons les autres à venir se joindre derrière nous à suivre Jésus-Christ. Quel est votre besoin? Que ce soit la conversion, que ce soit une meilleure marche pour chrétienne, avec des bonnes priorités, quel est votre besoin personnel ce matin?
On va prier.
Seigneur Dieu, merci pour qui tu es. Tu es Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole. Seigneur Dieu, tu nous avertis de la perdition. Tu nous avertis de ceux qui, dans ce monde, sont ennemis de la croix de Christ. Par toutes sortes de moyens, ils annulent vraiment ce que Christ a fait par la croix. Et ils vivent pour les choses de ce monde. Et Seigneur Dieu, merci que ce que toi tu veux donner, c'est la certitude et l'assurance et l'espoir. Et une cité au céleste qui n'a pas de faim, qui n'a pas de pourriture, qui n'a pas de saleté, qui n'a pas de mensonge, qui n'a pas d'injustice, qui n'a pas d'orgueil. Seigneur, merci que ça c'est mon héritage, c'est l'héritage d'autres. C'est peut-être pas l'héritage de tous ici, et je te prie que tu puisses presser lourd sur le cœur de quiconque ne te connaît pas encore comme Seigneur et Sauveur réellement, on te prie. Tu connais ceux qui t'appartiennent, on te prie. Aide-nous qui t'appartenons à marcher avec toi de plus en plus, on te prie. Et je te prie que plusieurs puissent venir à toi, même aujourd'hui, Seigneur, on te prie au nom de Jésus.